VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du mercredi 9 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Tunisie, demande d'un report du second tour de la présidentielle par l'un des deux candidats, Nabil Karoui, qui est toujours en prison.
Côte d'Ivoire, l'avocat de l'ex-président Laurent Gbagbo demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020.
On voit ce mercredi en République démocratique du Congo de 3 laboratoires français pour le dépistage d'Ebola.
La Turquie se dit prête pour une opération contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie, tandis que le président américain Donald Trump assure ne pas lâcher ses alliés kurdes.
L'affaire ukrainienne, le président Trump refuse de coopérer avec les démocrates de la Chambre des représentants qui enquêtent sur une éventuelle procédure de destitution contre lui.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'un des deux candidats au second tour de la présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, qui est incarcéré, a déposé hier un recours en justice pour demander un report de ce scrutin prévu le 13 octobre. Les précisions de Jacques Aristide.
Le recours a été déposé auprès du tribunal administratif qui n'a pas indiqué dans quel délai il pourrait y répondre. Pour Maître Nazi Soué, l'un des avocats du candidat Karoui, ce renvoi doit avoir lieu jusqu'à ce que son client soit libéré pour faire campagne. Le recours a fait valoir que l'égalité des chances n'est pas respectée entre les deux candidats. Nabil Karoui, un homme d'affaires dont le parti fondé il y a 6 mois, serait arrivé second aux législatives de dimanche, d'après plusieurs sondage, est en prison depuis le 23 août dernier dans le cadre d'une enquête pour blanchiment. L'instance chargée des élections et de nombreux dirigeants politiques et des observateurs internationaux avaient déjà appelé à ce que Nabil Karoui puisse faire campagne de façon équitable. Le premier finaliste de la présidentielle, l'universitaire Kais Saïd, a déclaré samedi dernier qu'il cessait de faire campagne afin de respecter l'égalité des chances avec son adversaire en prison.
En Égypte, le premier ministre Mustapha Madbouly a félicité la police pour son travail lors des manifestations antigouvernementales en septembre devant le Parlement. Et il a promis la fermeté face au risque de chaos. Les Égyptiens n'admettront pas que le scénario du chaos se répète, a-t-il poursuivi, dans une allusion au soulèvement de 2011 qui a chassé du pouvoir le président Hosni Moubarak. Des manifestations rapidement dispersées par la police ont eu lieu contre le président Abdel Fattah al-Sissi au Caire et dans d'autres villes égyptiennes le 20 septembre.
3 laboratoires de dépistage du virus Ebola, affrétés par les fondations Mérieux et Presence, vont décoller aujourd'hui de France avec pour destination la République démocratique du Congo. Irénée Hermanongbo, ces labos vont renforcer les mesures sur le terrain pour contenir la maladie.
Les deux fondations ont affrété un avion Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma 2 laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un de type P3 et l'autre de type P2 et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. C'est un enjeu de santé publique, a rappelé le fondateur du groupe pharmaceutique du même nom, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle du gouvernement par la personne du professeur Mouyembe chargé de la lutte contre Ebola. Ces laboratoires vont apporter une sécurité biologique beaucoup plus grande, a insisté M. Mérieux, rappelant que la RDC est un pays immense où le seul laboratoire P3 est à Kinshasa. Ces laboratoires conteneurs pourront ainsi diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour, a assuré le directeur diagnostique et système de la Fondation Mérieux, le Dr François-Xavier Babin. L'Ebola a fait plus de 2100 morts en RDC depuis la déclaration officielle de l'épidémie. Le 1er août 2018.
L'avocat de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020. Monsieur Gbagbo a été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais est en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure. C'est ce qu'a dit Maître Emmanuel Alti, conseiller principal de M. Gbagbo, dans une requête de 22 pages dont l'AFP a obtenu une copie.
Les États-Unis ont à nouveau fait preuve d'impatience hier à l'ONU face à l'évolution de la situation au Mali. La représentante permanente américaine, Kelly Craft, a jugé inacceptable que le gouvernement et les groupes armés, signataires de l'accord de paix de 2015, profitent de la mission de paix de l'ONU sans s'acquitter de leurs obligations. Madame Craft intervenait lors d'une réunion du Conseil de sécurité. La France et le représentant de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, ont au contraire fait valoir les progrès politiques accomplis.
Un policier a été lapidé à mort hier au Malawi lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants proches de l'opposition. Ces derniers tentaient d'empêcher la tenue d'une réunion publique du président Pite Mutharika. Bagasikoura.
Les violences se sont produites dans la ville de Musundwe, à l'ouest de la capitale Lilongwe, rapporte le porte-parole de la police James Kadadzera. Le policier Ousmane Imedi a été lapidé à mort, a-t-il dit. C'est le deuxième policier tué depuis le début des manifestations au Malawi. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser des protestataires qui bloquaient une route pour empêcher des partisans du chef de l'État de se rendre à son rassemblement prévu à Lilongwe. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre et ont tué un policier. La ville de Musundwe est l'un des bastions de l'opposition qui dénonce la réélection de Peter Mutharika en mai dernier. Il a été crédité de 38,57% des suffrages devant son adversaire Lazarus Chakwera, 35,41% des voix. L'opposition a déposé une requête en annulation du scrutin auprès de la justice qui doit se prononcer prochainement. Il y a deux semaines, un opposant malawite a trouvé la mort en garde à vue à Karunga, une ville du Nord. Lors de sa réunion publique hier, la première depuis sa réélection, le président malawite a appelé à la fin des violences.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Turquie a affirmé mardi être prête à lancer une nouvelle offensive en Syrie contre la milice kurde qui s'est battue contre les djihadistes du groupe État islamique aux côtés des forces américaines. Le président américain Donald Trump a assuré pour sa part ne pas lâcher les combattants kurdes après avoir laissé entendre le contraire en ordonnant le retrait des forces américaines déployées dans le nord syrien. Le point avec Jean-Roger Bion.
Renforçant l'impression qu'une offensive contre les unités de protection du peuple était imminente, le ministère turc de la Défense a indiqué que tous les préparatifs en vue d'une opération ont été achevés. La tension dans le nord-est de la Syrie est montée d'un cran après l'annonce par la Maison-Blanche dimanche soir dans la foulée d'un entretien téléphonique entre M. Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que les militaires américains stationnés dans la zone seraient retirés. Mais accusé jusque dans son propre camp de lâcher des alliés des États-Unis, le président Trump a réorienté lundi son discours en affirmant qu'il anéantirait complètement l'économie de la Turquie si celle-ci dépassait les bornes. Mais il a aussi souligné que la Turquie était un partenaire commercial important des États-Unis et annoncé qu'il accueillerait M. Erdogan à Washington le 13 novembre. Lundi soir, l'armée turque a dépêché des renforts, notamment des chars, à sa frontière avec la Syrie et de nouveaux véhicules blindés y ont été massés hier mardi.
L'affaire ukrainienne, la Maison-Blanche refuse de participer à ce qu'elle a appelé l'enquête inconstitutionnelle menée par les démocrates à la Chambre des représentants en vue d'une éventuelle procédure de destitution du président républicain Donald Trump. L'avocat de la présidence américaine, Pat Cipollone, a envoyé une lettre de 8 pages au leader de la Chambre basse, dont sa présidente Nancy Pelosi, qui essaie de déterminer si M. Trump a violé la loi en exhortant son homologue ukrainien à enquêter sur son possible rival démocrate en 2020, l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter.
Pour M. Cipollone, ces enquêtes démocrates ne sont ni légitimes ni impartiales. En réaction, Mme Pelosi a estimé que le refus de coopérer de la Maison-Blanche est, je cite, « simplement une autre tentative de cacher les faits sur les efforts éhontés de l'administration Trump de faire pression sur des pouvoirs étrangers afin qu'ils interfèrent dans les élections de 2020 ». Fin de citation.
Les États-Unis ont encore accentué mardi la pression sur la Chine pour dénoncer une campagne de répression contre les musulmans ouïghours au Xinjiang, malgré les protestations et démentis de Pékin. Après l'inscription lundi sur une liste noire de 28 organisations gouvernementales et commerciales chinoises, le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé des restrictions de visa concernant des responsables du gouvernement et du Parti communiste chinois.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Muniteco, Nani Talani.
Le Mali veut mettre en œuvre un plan de relance de près de 10 milliards de francs CFA pour redonner vie au chemin de fer, surtout au trafic ferroviaire entre Bamako et Dibolie, long de 586 kilomètres. Le plan prévoit de réhabiliter 19 gares ferroviaires et restaurer des campements pour la surveillance et l'entretien de la voie ferrée. Ce plan inclut aussi la remise à niveau du système de télécommunication ainsi que la location avec option d'achat de 4 locomotives. Le gouvernement malien espère ainsi désenclaver les localités riveraines du chemin de fer, relancer l'activité économique de ces localités et améliorer la mobilité des populations des zones desservies. La Sierra Leone a annulé le permis d'exploitation minière de SL Mining, la filiale de la société américaine Gerard Group opérant sur la mine de fer Marompa. Cette annulation intervient après la suspension fin septembre par SL Mining de la production à la mine à cause d'un différend avec les autorités sierra-léonaises. L'État avait interdit à SL Mining d'exporter ses productions, l'accusant de n'avoir pas respecté le cahier des charges convenu ni versé les redevances dues. De son côté, la compagnie a rejeté les accusations et demander un arbitrage international. Pour finir, les producteurs africains dits Coton 4, Mali, Tchad, Bénin et Burkina Faso se réunissent cette semaine avec d'autres États membres à l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Ils espèrent discuter de la réduction ou la suppression de subventions publiques qui, selon eux, crée un terrain de jeu inégal pour les exportateurs. Les pays du C4 occupent le cinquième rang dans les exportations cotonnières avec 1 million de tonnes par an derrière les États-Unis et le Brésil.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Éliminatoire des Jeux Olympiques, la Côte d'Ivoire élimine le Nigeria.
Oui, les Ivoiriens ont fait un match nul d'un but partout à Lagos dans le cadre de la rencontre retour de ces éliminatoires des Jeux Olympiques en football. Menés à domicile, les champions d'Afrique nigérianes ont fini par égaliser, mais ne feront pas mieux. Au match aller à Abidjan, les deux formations se sont accrochées 0-0. Grosse désillusion pour le Nigeria qui n'arrive pas à se remettre du départ de son sélectionneur, le Suédois Thomas Denerbi. La Côte d'Ivoire de son côté réalise ainsi un gros coup et affrontera au prochain tour le Cameroun, qui a perdu 2-1 face à la République démocratique du Congo à Kinshasa, mais qui avait disposé des Congolaises 2-0 à Yaoundé. Le Kenya s'est aussi qualifié pour le tour suivant, battant le Ghana 1-0. La Zambie a dominé le Botswana 2-0.
Dieu merci, Mbokani dans le top 10 des buteurs européens.
Meilleur buteur de Pro League, l'international congolais continue d'empiler les buts avec son club Antwerp en Belgique. Dieu merci, Mbokani a inscrit sa 8e réalisation contre le Standard de Liège 2-2. Ce 8e but du Congolais lui permet de revenir dans le top 10 des buteurs les plus efficaces des championnats européens. Robert Lewandowski reste l'autorité leader du classement avec 11 buts en 7 matchs.
4 nouveaux renforts pour les Lions de l'Atlas.
Le sélectionneur Vahid Halilhodžić a convoqué Omar El Kadouri, Naïef Aguerd, Abdelkrim Badi et Walid El Karti. Pour les journées FIFA du mois d'octobre, coach Vahid a dû modifier sa liste en raison de la blessure de Romain Cesse de Wolverhampton. Le doute plane par contre autour des participations de Hakim Ziyech de l'Ajax Amsterdam et Adel Tarab du Benfica Lisbonne. Les Lions de l'Atlas affronteront la Libye ce vendredi au stade d'honneur d'Ouja, puis le Gabon le mardi 15 octobre au grand stade de Tanger.
Zlatan Ibrahimovic inaugure une statue à son effigie dans sa ville natale.
La star du football suédois a inauguré une statue en bronze à son effigie de 500 kg pour 2,7 mètres près du stade où il a lancé sa carrière professionnelle dans sa ville natale de Malmö, en Suède donc. Qu'importe d'où vous venez, où vous êtes, qu'importe ce à quoi vous ressemblez, la statue est le symbole que tout est possible, a déclaré Zlatan Ibrahimovic. L'avant-centre du Los Angeles Galaxy a déjà un double de cire au musée Grévin à Paris. Avec 116 sélections, l'ancien international suédois a dominé l'équipe nationale de 2001 à 2016, marquant 62 buts. Depuis ses débuts avec Malmö en 1999, Zlatan a inscrit plus de 450 buts en professionnel pour le club suédois, l'Ajax Amsterdam, la Juventus Turin, l'Inter de Milan, Barcelone, l'AC Milan, le PSG, Manchester United et le Los Angeles Galaxy.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, Kongoussi, une localité située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale, accueille plus de 45 000 déplacés qui ont fui les exactions terroristes dans les villages environnants. Ils se retrouvent ainsi dans la principale localité de la province où ils se débattent dans de sérieuses difficultés. Notre correspondant Lamine Traoré s'est rendu à Kongoussi. Son reportage.
Amidou Guigma, 48 ans, est agriculteur à Zimtenga, 25 km de Kongoussi. Il a fui fin septembre à cause de l'insécurité et du terrorisme avec toute sa famille, au moins une quarantaine de membres.
J'ai fui avec toute ma famille.
Amidou Guigma, déplacé.
Mon papa, mes quatre vieilles, puisque le papa a quatre femmes. Moi j'ai deux femmes et j'ai mes petits frères aussi qui ont des femmes. La famille tourne autour d'une quarantaine de personnes que nous sommes venus avec ici.
Notre déplacé vit dans une zone défavorisée de Kongoussi. Pas d'eau potable ni d'électricité. La vie ici n'est donc pas facile. Ce matin, il est venu chercher des vivres sur place. Mais il faut s'aligner sous un soleil de plomb. Finalement, il repartira bredouille. Il y a rupture. Ousseni Kabore, directeur provincial de l'action humanitaire.
À ce jour, nous avons enregistré 45 472 personnes déplacées internes. Et nous avons pu toucher 2094 ménages qui ont bénéficié des vivres.
C'est pas conséquent quoi. Puisque, bon, en tout cas, c'est un geste qu'ils font.
Amidou Guigma.
Ça ne suffit pas. Vu le nombre de familles qu'on a, et vu les quantités qu'ils donnent, ah, en tout cas, si ça perdure, bon, vraiment, on n'arrivera pas à s'en sortir.
Amidou ne sait pas si ses enfants iront cette année à l'école.
J'ai au moins 6 enfants qui partent à l'école. Mais vraiment, leur avenir vraiment est hypothéqué. On n'a plus d'école. Toutes les écoles sont fermées. On a fui, on est là. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas quoi dire.
Le père de famille veut regagner sa localité.
Sincèrement dit, ce n'est pas facile. Étant déplacé, vraiment, ce qui nous manque, c'est notre village, nos récoltes, la nourriture.
Comme Amidou Guigma, ils sont plusieurs milliers de déplacés qu'on retrouve ici dans les différents quartiers de Kongoussi. Ils n'ont qu'un seul souhait, que la paix revienne dans leur localité respective, afin qu'ils y retournent, et ce, avec l'aide du gouvernement. Lamine Traoré. Kongoussi, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
À Bangui, en République centrafricaine, dans le quartier du PK5, qui a été longtemps stigmatisé, des jeunes ont décidé de prendre en main leur propre destin en créant une organisation appelée Cercle de la jeunesse islamique centrafricaine pour le développement. Cohésion sociale, travaux communautaires, réunions de sensibilisation sont certaines des activités qu'ils organisent pour améliorer le quotidien des habitants. Pascal Serra nous amène à leur rencontre.
Le quartier du kilomètre 5 à Bangui, ses monuments, ses boutiques, ses commerçants et sa jeunesse qui s'active afin de contribuer au retour d'une paix durable entre les communautés.
Chacun de nous maîtrise son équipe déjà.
Ici, les crises politico-militaires ont laissé des empreintes qui ont favorisé la marginalisation et l'enclavement de toute une population. Une situation que des jeunes volontaires ont décidé de changer.
Je suis le président de CRJ4, c'est une organisation de la jeunesse musulmane centrafricaine qui évolue beaucoup plus dans le cadre de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et chaque année, nous inscrivons beaucoup plus les enfants démunis à l'école et de contribuer aussi à leur éducation, de les appuyer avec les fournitures scolaires. Nous sommes aussi dans la formation aussi, formation d'entrepreneuriat pour que demain ils deviennent responsables d'eux-mêmes, de créer des entreprises pour développer les pays parce que c'est la pauvreté là vraiment qui pousse les gens vraiment de faire n'importe quoi. Nous promouvons aussi beaucoup plus l'éducation des filles parce que une fille, si elle est instruite, j'espère que c'est toute une nation qui est instruite.
À travers leur organisation, les jeunes, avec l'appui de quelques partenaires, organisent sans relâche des activités qui favorisent la cohésion sociale, le relèvement du système éducatif ou encore pour rendre effectives les campagnes de vaccination. Des actions qui portent des fruits.
À l'époque, si quelqu'un dit qu'il part au kilomètre 5, les gens croyaient qu'il part dans un couloir de la mort. Vous avez vu aujourd'hui, il y a retour des activités, il y a la calmie, les enfants aillent à l'école, nos mamans partent à l'hôpital, et les jeunes aussi exercent les activités. Vraiment, on a eu des résultats sur le terrain.
Volontaires, investis, engagés, les jeunes du kilomètre 5 espèrent que leur pays redeviendra un jour la vitrine de l'Afrique, un but qui sera atteint grâce à la contribution de tous.
Un reportage de Pascal Serra à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, longtemps stigmatisés en raison de leur orientation sexuelle, les LGBT aperçoivent aujourd'hui une lueur d'espoir. Briser les tabous et la discrimination autour de leur personne, telle est la lutte engagée par certaines organisations non gouvernementales du pays. Sur ce sujet de société, un reportage de Siriki Baro à Boaké.
Même si aucune loi n'interdit l'homosexualité, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels sont marginalisés et victimes de violences de tout genre. Youssouf est homosexuel. Pour cette raison, il a été expulsé de la maison qu'il loue.
Je vois des gens efféminés qui viennent chez toi à la maison dans une cour musulmane. Des femmes qui marchent comme des garçons, ça lève beaucoup de questions. Le propriétaire de la cour m'a dit, lui ne veut pas voir ce genre de personnes chez lui à la maison. Et sa religion l'interdit, donc on a libéré sa cour. Il m'a donné 3 mois, mais pendant les 3 mois, je n'avais plus accès au courant ni accès à l'eau.
Lui se fait appeler Rosé Fécha, il est bisexuel. Pour éviter la haine et la furie des homophobes, il a décidé de cacher son appartenance sexuelle, malgré son aspect féminin très prononcé.
Je suis chrétien, j'essaie de camoufler mon vrai comportement. Donc c'est tout récemment, quand ma photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Si tu veux parler, t'expliquer, ça va rentrer dans des choses que toi, mais tu ne pourras pas contrôler. Donc je préfère me taire sur le sujet.
Défendre les droits des personnes LGBT, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Secours Social. Une organisation qui ambitionne rétablir les LGBT dans leurs droits, mais également lutter contre le VIH-Sida chez ces personnes. Lucien Lagan en est le responsable.
Souvent, quand on entend parler d'un LGBT, vraiment c'est touchant. Ils sont traités de malades, de maudits. Ils sont traités de tout. Or, c'est des êtres humains. C'est des personnes vraiment très vénérables. Côté santé, c'est des personnes vraiment qui ont peur d'aller dans les centres de santé. Or, le taux de VIH de la communauté est plus élevé, vu le rejet.
Toujours selon Lucien Lagan, les actions de sensibilisation menées auprès des religieux commencent à porter fruit.
On a essayé de croiser des imams, faire des plaidoyers avec eux. C'était pas facile. Après ça, ces imams, ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont commencé à accepter. Les personnes qu'on déteste tellement, qu'on maudit chaque jour, c'est nos enfants.
Plusieurs cas de violence envers les LGBT ont été enregistrés à Boaké. Le dernier en date remonte au mois de mars 2019. Un jeune gay a subi une attaque à la machette. Par peur, il a décidé de garder le silence sans jamais porter plainte contre ses agresseurs. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Ouganda, les efforts consentis pour insuffler une vie à l'industrie locale du textile et de la mode sont confrontés à diverses difficultés, parmi lesquelles notamment le marché florissant des vêtements d'occasion. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Chaque dimanche, à un carrefour de Kampala, les commerçants se retrouvent pour vendre leurs marchandises. Rejetés par les magasins de charité ou les friperies de l'Occident, les vêtements de seconde main sont populaires parmi les Ougandais. Ils sont également une source de revenus importante pour un segment de la population. Rose Natabi vend des vêtements usagés depuis plus de 5 ans.
Les vêtements vendus dans les magasins ici ne durent pas longtemps. Le tissu se déchire facilement après lavage. Ces vêtements de seconde main, eux, sont durables. Ils ont déjà été utilisés, mais ils sont meilleurs que ceux fabriqués ici en Ouganda. Ceux d'ici sont de mauvaise qualité. On les lave une fois et ils sont déchirés. Les enfants les portent pendant 2 mois et c'est tout.
Ce n'est pas seulement en Ouganda. Le commerce de vêtements de seconde main est courant sur tout le continent, le Ghana, la Tanzanie, le Bénin et le Kenya étant parmi les plus gros marchés. Toutefois, bien que cela puisse apporter une solution pratique au chômage, les critiques soutiennent que le commerce de vêtements usés empêche l'Afrique de se doter d'une industrie. La créatrice de mode, Victoria Miraba Kenyi, souhaite que ce commerce soit interdit.
Cela aiderait d'une manière ou d'une autre, car parfois, des choses sont importées dans le pays, mais ce sont des choses que nous pouvons faire en tant que créateurs vivant dans le pays.
Ce n'est pas si facile. En 2016, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda ont tous augmenté les taxes sur les vêtements et les chaussures usagées. Mais en 2017, un groupe de commerce représentant les exportateurs de vêtements usagés américains a déposé une pétition contre cette mesure. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont fait marche arrière et accepté de réduire le montant des taxes. Le Rwanda, qui a refusé, a vu son exemption des droits de douane sur les vêtements exportés vers les États-Unis suspendue.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les États-Unis n'ont pas abandonné les Kurdes, a tenté de rassurer ce mardi le président américain Donald Trump, 2 jours après avoir annoncé le retrait de troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque dans le nord de la Syrie. La décision est contestée au sein même du parti présidentiel. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint en France Jean Marcoux, professeur à Grenoble et ancien directeur de l'Institut français à Istanbul.
En réalité, les milices kurdes ont été un petit peu le bras armé des États-Unis face aux groupes djihadistes, en particulier à Daesh, l'État islamique. Parce que finalement, en 2013, lorsque ce phénomène djihadiste s'est imposé dans la crise syrienne et dans la crise irakienne, les États-Unis et leurs alliés ont déclenché une coalition internationale, mais une coalition internationale qui n'était uniquement chargée que d'intervention de frappe aérienne. Or, il fallait aussi quelqu'un pour intervenir sur le terrain, et ceux qui sont intervenus sur le terrain, ce sont ces milices kurdes syriennes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, ils contrôlent le nord-est de la Syrie. Et donc, bien évidemment, on a l'impression que les États-Unis se sont servis des Kurdes lorsqu'ils en avaient besoin.
Et pourquoi est-ce que la Turquie veut attaquer les bases kurdes en Syrie ?
Parce que la Turquie considère, en fait, que les Kurdes syriens, qui sont rassemblés dans un parti, enfin, qui domine cette zone kurde syrienne.
La Rojava?
Le Rojava, et ce parti s'appelle le PYD, et les milices, en fait, kurdes s'appellent les YPG, hein, les unités de défense du peuple. La Turquie considère, en fait, ces Kurdes syriens comme des alliés, en réalité, voire même comme la branche syrienne du PKK qui mène la rébellion sur le territoire turc.
Alors, les Kurdes, ils sont sur plusieurs territoires, dans plusieurs pays, l'Irak, l'Iran, oui. La Turquie. Pourquoi est-ce que tous ces pays n'arrivent pas à régler la question kurde et la Syrie, justement ?
Parce que, finalement, les Kurdes sont sur différents territoires et qu'il y a un petit peu une double approche du problème kurde. Il y a à la fois une identité kurde globale, mais en même temps, quand vous regardez de près, dans chaque pays, les Kurdes ont des particularités, voire des affinités.
C'était une analyse du professeur Jean Marcoux, ancien directeur de l'Institut français d'Istanbul.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur ce qui est désormais connu aux États-Unis comme l'affaire ukrainienne. Une affaire qui domine le débat politique américain. Les adversaires démocrates de Donald Trump enquêtent en vue d'une mise en accusation du président républicain qui lui parle d'une nouvelle chasse aux sorcières après l'enquête russe. Que pensez-vous de l'affaire ukrainienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.